Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Belinda Bosuma.
Joseph Kabila, poursuivi pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. La justice congolaise poursuit le sénateur à vie, non pas en sa qualité d'ancien chef de l'État, mais en sa qualité de sénateur, indique le ministre de la Justice. Les participants au pourparlers de Doha réaffirment leur engagement en faveur de la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Des représentants de 6 pays se sont réunis hier au Qatar. C'est dans le cadre du prolongement notamment du sommet trilatéral du 18 mars 2025 entre les dirigeants congolais, rwandais et qataris. Et puis, le gouvernement congolais met en œuvre plusieurs dispositions afin d'améliorer les conditions professionnelles des travailleurs et lutter contre le chômage dans le pays. C'est ce qu'affirme le ministre de l'Emploi et du Travail en cette journée internationale du travail, Ephraim Akwakwa, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Joseph Kabila est poursuivi pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est ce qu'annonce le ministre de la Justice sur son compte X, ex-Twitter, selon Constant Mutamba. La justice congolaise poursuit le sénateur à vie, non pas en sa qualité d'ancien chef de l'État, mais en sa qualité de sénateur, ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Il demande donc au Sénat de lever les immunités du sénateur à vie Joseph Kabila pour permettre à la justice d'instruire le dossier. On écoute un extrait de la déclaration du ministre Constant Mutamba à ce sujet.
Les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur.
Dans l'actualité aussi, des représentants de 6 pays dont la RDC, le Rwanda, le Qatar, le Togo, les États-Unis et la France se sont réunis hier 30 avril à Doha au Qatar. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du prolongement du sommet trilatéral du 18 mars 2025 entre les dirigeants congolais, rwandais et qataris et dans la dynamique de la déclaration de principe signée à Washington le 25 avril dernier entre Kinshasa et Kigali. Selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères, les participants ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région des Grands Lacs. Détail avec vous, Martial Papi Mukeba.
Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les dialogues en cours entre les gouvernements congolais et la rébellion de l'AFC M23, ainsi que sur la crise humanitaire persistante. Les participants ont salué la déclaration conjointe entre la RDC et l'AFC M23, facilitée par le Qatar, marquant un engagement mutuel pour cesser les faits. Ce dernier est considéré comme essentiel pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Ils ont insisté sur la nécessité d'aborder les causes profondes du conflit par les dialogues dans le respect des résolutions de l'Union africaine et des Nations unies ainsi que de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États concernés. Les délégués ont également salué les avancées ici du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février 2025 à Dar es Salaam et les efforts de médiation entrepris par l'EAC et la SADC sous l'égide de l'Union africaine et du président togolais Faure Gnassingbé. Ils ont en fait réaffirmé leur volonté de poursuivre poursuivre les dialogues et de renforcer l'action collective pour un avenir pacifique en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Parlons justement du conflit dans l'Est de la RDC, l'Union européenne réaffirme son soutien aux initiatives de médiation en cours en vue d'une paix juste et équitable dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la sous-région. C'est ce qu'affirme dans un communiqué de presse publié hier le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs en visite à Kinshasa pour renforcer, dit-il, la dynamique de paix. L'ambassadeur Johan Borgstam est arrivé dans la capitale congolaise le mardi en provenance de Brazzaville pour une visite de 48 heures dans le cadre d'une mission qui le conduira également au Rwanda. Plus de détails avec Grace Amzati.
À en croire ce communiqué, l'ambassadeur Johan Borgstam confirme le soutien de l'Union européenne à la consolidation de la dynamique de paix qui découle de la rencontre du 18 mars dernier à Doha entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ainsi que la déclaration des principes signée le 25 avril à Washington entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Dans ce cadre, il est important de préserver les acquis des processus de Luanda et de Nairobi et d'assurer que les efforts internationaux soutiennent le processus régional et à SADC. Nous appelons toutes les parties prenantes à s'engager de manière substantielle et à procéder rapidement à la mise en œuvre des actions identifiées dans les différents cadres des dialogues, déclare-t-il. Dans ses rencontres avec les différentes personnalités du pays, Johan Borgstam a aussi abordé la situation humanitaire. C'est ainsi qu'il a eu des échanges avec le chef des délégations du CICR et des responsables des Médecins Sans Frontières. Le communiqué rappelle que l'Union européenne a récemment organisé un pont aérien pour acheminer de l'aide humanitaire à hauteur de 1 million d'euros à Goma pour porter assistance aux personnes affectées par le conflit.
Journée internationale du travail, c'est aujourd'hui 1er mai. À cette occasion, dans une interview accordée à Radio Okapi, le ministre de l'Emploi et du Travail appelle tous les travailleurs congolais à la résilience en affirmant que le gouvernement a mis en œuvre plusieurs dispositions afin d'améliorer leurs conditions professionnelles et lutter contre le chômage dans le pays. Suivez un extrait de l'entretien que le ministre Ephraim Akwakwa nous a accordé. Il est au micro de Grace Amzati.
Plusieurs initiatives ont été mises en place, notamment la redynamisation des institutions publiques et programmes pour le développement, le financement de l'entrepreneuriat et la promotion de la classe moyenne en RDC. En fait, cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dont l'objectif général est d'atteindre le plein emploi en RDC.
Et que pensez-vous de ces nombreux Congolais qui travaillent dans les sociétés des expatriés et qui grèvent régulièrement pour décrier leurs conditions socio-professionnelles?
C'est que je sais comme ministre du Travail, nous avons un peu des problèmes dans le secteur du commerce par le service privé de placement. Je crois que vous êtes informé que nous avons organisé le Conseil national du travail et tous ces problèmes ont été examinés et nous avons mis des mesures correctives pour que ces Congolais qui évoluent dans ce secteur-là aient finalement des contrats du travail conformément au code du travail.
Le ministre Ephraim Akwakwa est l'invité de ce journal. 14 500 francs congolais, montant fixé par le Conseil national de travail pour le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG pour les travailleurs. Ce montant est donné suite à plusieurs réclamations et menaces de grève que les agents ont effectuées. À l'occasion de la fête de travail, le représentant de ces agents a encouragé les siens à être patients. Ces travailleurs des Indo-Pakistanais attendent la réalisation de cette décision de la part de l'État. Jean-Benoît Tando, président de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, OTUC, souligne que celui qui ne respectera pas cette décision sera soumis à la rigueur de la loi. Il est au micro de Étienne Lissumbo.
Le SMIG a été fixé par un décret du Premier ministre. Mais le ministre étant président de la commission de suivi des SMIG, je crois qu'il avait agi par rapport à cette fonction-là et ce n'était pas un péché. Mais parce que les amis qui ont voulu, certainement les employeurs ont voulu que cette décision passe par la voie autorisée qui est le Conseil national du travail. Et nous avons tenu ces consignes, nous l'avons terminé. Et les 14 500, vous allez m'excuser de le dire, a été dit comme le SMIC qui va être payé à la fin du mois de mai. Et l'employé qui ne paierait pas ça, il va être exposé devant les sanctions extrêmes par les inspecteurs du travail qui sont OPJ, qui seront largués certainement après les 30, à la fin du mois de mai, pour vérifier si réellement ce SMIC a été appliqué. Mais au mois de janvier, c'est la totalité de SMIC qui va être payée.
Le monde célèbre bien la fête du travail aujourd'hui, mais à Kinshasa, pour de nombreux fonctionnaires de l'État, se rendre simplement au travail reste un véritable défi. Et selon les témoignages recueillis, beaucoup d'entre eux affirment consacrer l'essentiel de leur salaire aux frais de transport, ce qui les met en difficulté et les empêche de joindre les deux bouts du mois. Greta Lulendo leur a tendu son micro. Reportage.
Les embouteillages monstres de Kinshasa sont devenus un cauchemar quotidien pour les Congolais. Et les agents de l'administration publique ne sont pas en reste. Nicodème Manguzi, un père de famille, affirme qu'il dépense chaque jour plus de 10 000 francs congolais rien que pour le transport. Il nous raconte son calvaire.
Tant que père de famille, avec 380 000 francs, donc ça ne me permet pas vraiment d'assumer la responsabilité de ma famille. Je paye au moins chaque jour ces 10 000 francs pour quitter chez moi, venir ici et rentrer. Et pour payer le loyer, c'est très difficile. Pour en manger aussi. Donc vraiment les gens souffrent. Dans le domaine des transports, il faut que l'État au moins prenne ses responsabilités. Et il faut qu'il y ait une amélioration du côté salarial des agents et fonctionnaires de l'État pour ça nous permet vraiment de bien vivre.
Au-delà du transport, ces sexagénaires profitent de ce 1er mai pour plaider pour une modernisation de l'administration publique.
À part les problèmes de transport, même au niveau de nos services de l'administration publique ici, il y a les dysfonctionnements. Nous manquons des matériels, par exemple des bureaux. Notre administration est toujours en train de tâtonner.
En attendant, les syndicats de travailleurs annoncent poursuivre les négociations avec les autorités pour améliorer les conditions de transport et de travail.
Par ailleurs, nous vivons parce que c'est la vocation qui nous maintient encore dans le métier de l'enseignement et non de ce que le pays nous donne. Ces propos sont de Kaindo Moussavouli, enseignant depuis plus de 50 ans dans la région de Komanda, en Ituri, où il est directeur de l'école primaire Mwangaza. Un demi-siècle après, il n'est toujours pas retraité, amorti et essoufflé, mais toujours amoureux de son métier. À l'occasion de cette journée nationale de l'enseignant, il appelle les autorités du pays à être conscientes de ce que ce métier a fait d'eux aujourd'hui. Ezekiel Mouzali a la rencontré le mois passé à Komanda. Voici son reportage.
Né en 1945, Kaindo Moussavouli fait ses études d'humanité gréco-latine au collège P10 de Butembo au Nord Kivu. En 1964, la rébellion des moulélistes empêche son rêve de devenir un des cadres de ce pays.
Nous vivons parce que c'est la vocation qui nous maintient dans l'enseignement. Je suis amorti et le gouvernement ne tient même pas compte de ça.
Pour lui, l'enseignement est le carburant de tout moteur de développement, mais il regrette que beaucoup de personnes ne valorisent pas encore de nos jours le métier d'enseignant.
On nous regarde comme des gens qui n'ont pas de valeur. Même ces cadres que nous avons enseignés négligent l'enseignant. Alors que nous sommes la base de tout développement de notre pays.
Kaindo Moussavouli demande à ses collègues enseignants d'être persévérants et surtout d'exercer ses métiers avec abnégation et amour malgré le contexte sécuritaire à l'Est.
Si c'est du courage à cause de la sécurité, des paiements médiocres, ils vont regretter plus tard car les choses vont se normaliser.
Plusieurs enseignants ne sont pas rémunérés à cause de l'insécurité, ce qui les a poussés à abandonner le métier. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans la région de Beni, l'enseignement est confronté à plusieurs difficultés, notamment d'ordre sécuritaire et matériel, avec des enseignants tués par les rebelles des EDF ou encore une mauvaise prise en charge par l'État, selon eux. Le syndicat des enseignants Sieko de Beni l'a redit mercredi 30 avril à l'occasion d'un culte célébré en la cathédrale anglicane de Beni pour commémorer la journée nationale de l'enseignement et de l'enseignant. Guylaine Kassassia, reportage.
La sécurité demeure un obstacle majeur au bon déroulement de l'enseignement. Selon les CIECO, plusieurs enseignants ont été tués par les rebelles des ADEF ces dernières années. À cela s'ajoute la précarité salariale qui pèse lourdement sur les conditions de travail. Lors d'un culte organisé à la cathédrale anglicane de Beni à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement, le secrétaire permanent du CIECO Beni, Gisele Palou Bambirikire, a dénoncé les menaces persistantes contre les enseignants, les élèves et même les parents.
Nous travaillons dans un environnement qui n'est pas propice à l'enseignement et à la sécurité en général dans notre province du Nord Kivu, particulièrement dans la région de Beni où les enfants apprenant sont kidnappés, forcés d'intégrer les groupes armés, même certains enseignants aussi ont perdu leur vie, chose qui ne nous permet pas vraiment de dispenser cours dans de bonnes conditions. Tous les partenaires éducatifs sont menacés, même certains parents. Actuellement avec la guerre, même au niveau secondaire, la prime devient un problème parce que beaucoup de parents sont cultivateurs dans notre région. Maintenant, quand ils ne sont plus dans leur champ, ils ont des difficultés pour subvenir aux besoins éducatifs de leurs enfants.
Au cours des 10 dernières années, plus de 100 enseignants ont été tués dans la région, dont 2 rien qu'au premier trimestre de cette année dans la ville de Beni. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Toujours en marge de la journée nationale célébrée hier, journée de l'enseignement, l'entreprise EdTech School App, spécialisée dans la digitalisation en milieu éducatif, dévoile une nouvelle version 2.0 de sa plateforme. La plateforme vient de connaître une amélioration avec 18 fonctionnalités innovantes. Ces fonctionnalités incluent désormais la gestion administrative, pédagogique et financière des établissements scolaires en une seule plateforme. D'après Pascal Canic, entrepreneur et cofondateur de SchoolApp, ces innovations consacrent la rupture des pratiques dépassées et fastidieuses dans l'opérationnalisation des procédés des systèmes éducatifs traditionnels. Nous y reviendrons.
Actualité internationale.
Des milliers de Burkinabés ont pris d'assaut la place de la nation à Ouagadougou pour réaffirmer leur soutien au capitaine Traoré. Pancarte en main, les pro-Ibrahim Traoré étaient remontés contre le général Michael Langlais. En effet, le commandant de l'US Africom avait affirmé que les ressources minières du Burkina Faso ainsi que certains revenus issus de la coopération avec la République populaire de Chine ne profiteraient pas à la population et serviraient plutôt à la protection du régime en place.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Ephraim Akwakwa Nametu, ministre congolais de l'Emploi et du Travail, à l'occasion de la Journée internationale du travail, aujourd'hui 1er mai. Il appelle tous les travailleurs congolais à la résilience en affirmant que le gouvernement a mis en œuvre plusieurs dispositions afin d'améliorer leurs conditions professionnelles et lutter contre le chômage dans le pays. Le ministre Ephraim Akwakwa s'entretient avec Grâce Amzati.
Monsieur le ministre Ephraim Akwakwa Nametu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel état des lieux faites-vous du monde de l'emploi et du travail aujourd'hui en RDC?
Sincèrement, je dois vous rassurer que l'état des lieux du monde du travail est plus ou moins meilleur qu'avant, parce que nous sommes un gouvernement responsable. Responsable, ça veut dire que nous faisons un effort à trouver de l'emploi, en fait, de réduire le chômage en RDC. C'est dans ce sens que pour y parvenir, plusieurs initiatives ont été mises en place, notamment la redynamisation des institutions publiques et programmes pour le développement, le financement de l'entrepreneuriat et la promotion de la classe moyenne en RDC. En fait, cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dont l'objectif général est d'atteindre le plein emploi en RDC.
Et que pensez-vous de ces nombreux Congolais qui travaillent dans les sociétés des expatriés et qui grèvent régulièrement pour décrier leurs conditions socio-professionnelles?
C'est que je sais qu'au ministre du Travail, nous avons un peu des problèmes dans le secteur du commerce par le service privé de placement. Je crois que vous êtes informé que nous avons organisé le Conseil national du travail et tous ces problèmes ont été examinés et nous avons mis des mesures correctives pour que ces Congolais qui évoluent dans ce secteur-là aient finalement des contrats du travail conformément au code du travail.
Par exemple, quelles mesures?
Les mesures, notamment, nous avons dit que tous ceux qui vont travailler dans le secteur des services privés de placement, qu'ils aient au départ un contrat avec ces sociétés-là, des services de placement, mais aussi avec les sociétés utilisatrices où ils sont employés. Ce sont les mesures qui ont été arrêtées au Conseil national du travail.
Puisque vous en parlez, à l'occasion justement de ce Conseil national du travail, le président de la République avait demandé aux organisateurs de ces travaux dont vous faisiez partie de privilégier les travailleurs les plus vulnérables dans les discussions sur l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en sigle. Que peut-on retenir de cette démarche ou de cette demande du chef de l'État?
Merci. En fait, je voudrais d'abord quand même m'acquitter d'un devoir patriotique. En fait, il faudra saluer la matérialisation de cette vision du chef de l'État
par l'organisation de ces 37e session du Conseil national du travail, CNT en cycle, et dont les travaux se sont clôturés le 29 avril 2025 par l'adoption d'un certain nombre de résolutions majeures, dont notamment l'ajustement du SMIC avec effet dès la fin du mois de mai 2025 en vue de renforcer les pouvoirs d'achat des travailleurs et travailleuses en RDC. La fixation des nouveaux SMIC payables à partir du mois de janvier 2026. L'opérationnalisation de la couverture santé universelle à 2,5% par travailleur par mois. L'augmentation de la contribution patronale pour l'INPP de 1 à 2%, de 2 à 3% et 3% à 3,5% selon le nombre de travailleurs déterminés par la loi. Pour la contribution patronale de l'ONEM, elle est passée de 0,2% à 0,5%. Donc, globalement, il faudra retenir que les résultats sont positifs parce que nous avons donné les ressources, notamment supplémentaires à l'INPP, aussi à l'ONEM, mais aussi nous avons tablé sur la question des SMIC par lequel nous avons d'abord fait un ajustement pour le mois de mai qui sera déjà payé à la fin du mois de mai avec un nouveau SMIC dont je ne sais pas vous donner la teneur ici parce que je garde la primaire d'abord à la première ministre aussi au président de la République. Mais sinon, je dois vous rassurer que quand les travailleurs congolais seront informés, ils seront le plus heureux parce que c'est après plusieurs années que la RDC est arrivée à ce niveau-là. Mais moi, je crois après ce résultat-là, nous devons la RDC parmi les pays qui payent trop bien, qui ont un bon SMIG en Afrique.
Alors, quel est votre message à tous les travailleurs de la RDC qui vous écoutent sur Radio Capi à cette journée du 1er mai?
D'abord, je dois les féliciter parce qu'il faut savoir que nous tous, nous sommes dans un état de résilience avec la guerre qui nous est imposée par le Rwanda et leurs supplétifs. C'est comme ça, j'ai dit courage aux travailleurs et aux travailleuses. Ils ne doivent pas perdre l'espoir parce que le chef de l'État se bat pour que les conditions des travailleurs soient améliorées et aussi la première ministre ne cesse de nous demander de travailler davantage pour l'amélioration des conditions des travailleurs congolais.
Ephraim Akwakwa, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Le ministre congolais de l'Emploi et du Travail répondait aux questions de Grace Hamzati. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Alain Goya, la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.